Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le ventre. Il y aura de la médecine, photographie et réseau, danse, tout ça, c'est au programme de cette série qui commence aujourd'hui par des paroles de femmes ayant porté des enfants pour autrui. Nous avons renoncé à une émission sur la dictature du ventre plat, non pas parce qu'elle aurait cessé, mais parce qu'il ne nous semblait rien avoir à dire de neuf sur une heure à son propos. Dieu sait, s'il existe, que les dictatures se portent bien, on leur fait même l'honneur de quelques médailles françaises, mais celle du ventre plat, d'hommes et de femmes confondus d'ailleurs, a la peau très dure. Le mot « plat », pourtant pas le plus réjouissant, est la première sortie des moteurs de recherche français associée au mot « ventre », et c'est une obsession chérie que les internautes partagent avec toutes sortes d'images publicitaires depuis si longtemps. Alors à défaut d'une émission entière, on peut par exemple lire ou relire « Beauté fatale » de Mona Chollet. Il est 14h, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont le fruit de découvertes marquantes. Nous avons demandé cette semaine à la cinéaste Laetitia Merli de sonder ses souvenirs à la recherche de moments de cette importance. Nous évoquions la semaine dernière son travail autour du chamanisme contemporain en France et en Mongolie. Aujourd'hui, elle évoque sa découverte d'Ella Maillard, une voyageuse suisse sur les pas de laquelle elle s'engage à 20 ans. Alors, élan vers 14h50. Premier moment d'une semaine thématique consacrée au ventre. Qui décide de ce que l'on en fait? Jusqu'où autrui, le social, la loi peuvent-ils statuer sur la manière dont le corps est utilisé par l'individu? Ce sont des questions qui sont très fortement secouées par la possibilité de la gestation pour autrui, GPA. Question qui a agité le débat français en périphérie des manifestations contre et pour le mariage pour tous. Pour résumer des discussions très complexes, on peut considérer que s'oppose d'une part la liberté de chaque femme à disposer de son propre corps et d'autre, la crainte d'une marchandisation de ses corps. Dans ces débats, se font rarement entendre les paroles des femmes qui ont elles-mêmes porté des enfants pour autrui. C'est en tout cas de ce constat que part votre film Delphine Lance, Paroles de femmes porteuses, un film qui s'inscrit complètement dans la lignée de votre travail de thèse en anthropologie. C'est une recherche qui compare entre autres les pratiques de la GPA aux États-Unis et en Ukraine. Bonjour et bienvenue.
Bonjour et merci pour m'avoir invitée.
Avec plaisir. Merci à vous d'être ici. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce que c'est que la GPA, la gestation pour autrui?
Oui, alors tout d'abord, il faut, je pense, séparer maternité pour autrui, ce qu'on appelle maternité pour autrui et gestation pour autrui. Donc la maternité pour autrui, c'est lorsqu'une femme décide de porter un enfant pour autrui, mais avec ses propres ovocytes. Et la gestation pour autrui, c'est lorsque... une femme décide, ou et un couple décide de faire appel à une femme qui portera l'enfant d'un couple on parle souvent de parents d'intention jusqu'à terme en fait. Donc on fera une fécondation in vitro avec le sperme du père et l'ovocyte de la femme. Mère
quand
d'intention,
c'est un couple hétérosexuel.
Si c'est un couple hétérosexuel, voilà, ou alors dans le cadre d'un couple gay ou dans le cadre d'un couple hétérosexuel où la femme n'aurait pas de réserve ovarienne, on fera appel à une donneuse d'ovocytes.
Donc dans ce cas, ce sont bien deux gamètes différentes qui se rencontrent, qui forment un embryon, et c'est cet embryon, ce fœtus, qui est implanté dans le ventre de la femme qu'on dit porteuse.
Oui, tout à fait.
Alors, quand on parle des femmes porteuses que vous avez rencontrées, vous les avez rencontrées comment?
Alors, bon, moi, je suis partie en Ukraine et aux États-Unis, donc c'était vraiment différent, les modes de rencontre. En Ukraine, c'était très difficile de les rencontrer via les agences de GPA. Donc, je les ai trouvées sur Internet, en fait, sur des sites russes où elles écrivaient elles-mêmes leur annonce en proposant leur service, entre guillemets, de femme porteuse. Aux États-Unis... Je les ai rencontrés soit par le biais d'agences dans lesquelles j'ai fait du terrain, soit sur un site, sur Moms Online, où on peut retrouver différentes femmes qui soit portent directement avec leurs propres ovocytes, soit avec des donneuses d'ovocytes.
À quoi ça ressemble une annonce de femme porteuse sur les sites internet que vous avez visités?
Alors, En Ukraine, bon, parce que là, je les ai principalement vues en Ukraine, elles vont décrire donc leur âge, le nombre d'enfants qu'elles ont eus, parce qu'il faut savoir qu'une femme, pour porter pour autrui, doit déjà avoir eu des enfants.
Quel que soit le pays.
Oui, alors ça peut bien entendu arriver que les femmes n'aient jamais porté d'enfants, mais lorsqu'on passe par agence, c'est impossible. Et bon, elles vont dire voilà, qu'elles sont en bonne santé, le groupe sanguin... Où elles vont également dire si elles ont déjà subi des fausses couches, avortements ou une césarienne.
Est-ce qu'on peut revenir sur le moment où en est la loi française à ce propos aujourd'hui ?
Alors là, c'est que ça stagne quand même pas mal, parce qu'il y a tous ces débats autour de ce dont vous parliez, de la marchandisation du corps. Alors, d'un côté, on a effectivement les personnes qui sont anti-GPA, qui vont dire que c'est une marchandisation du corps. Bon, c'est quelque chose...
On va revenir sur le détail de ce qui oppose les différentes prises de parti, mais simplement ce que dit la loi aujourd'hui, c'est que c'est impossible.
Alors, ce que dit la loi, c'est que c'est impossible. Et même lorsque les enfants sont nés à l'étranger par GPA, ils n'ont pas la nationalité française. Ça commence un peu à changer, mais c'est très difficile. Surtout quand les parents ont fait des GPA dans les pays où c'est interdit.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes françaises qui veulent avoir un enfant par gestation pour autrui peuvent le faire à l'étranger.
Oui.
Ensuite, ils élèvent leur enfant en France, mais c'est un enfant qui n'est pas reconnu français, qui n'a aucune existence aux yeux de la loi française.
Alors oui, alors certains enfants ont quand même été reconnus, mais la majorité n'est pas reconnue à l'heure actuelle, oui.
Par quel biais ils ont été reconnus du coup ?
Alors moi j'ai des couples qui ont fait passer ça au tribunal de Nantes et c'est passé comme une lettre à la poste et l'enfant est devenu français. Donc ils ont fait une demande d'état civil, etc. Mais ça fonctionne une fois sur 15. C'est-à-dire que généralement les dossiers restent un peu en bas de la pile.
Voilà. Quand votre film s'ouvre en disant, en prenant bien la précaution de signaler que les femmes qu'on va entendre ne sont pas représentatives, que vous ne proposez pas un échantillon exhaustif, notamment parce que vous avez interviewé des femmes en Ukraine, aux États-Unis, pourquoi avoir choisi ces deux points peut-être très fort ou très intense de ce qu'on appelle, en tout cas du côté anti-GPA, le grand marché de la gestation pour autrui, Ukraine et États-Unis, et peut-être n'avoir pas donné la parole à des femmes, par exemple, en Inde.
Alors, tout d'abord parce que mon terrain de recherche, donc moi je suis en thèse, en quatrième année de thèse, là, et mon terrain de recherche se basait sur l'Ukraine et les États-Unis. J'ai tout simplement fait des terrains là-bas. Et justement, parce qu'on oppose souvent les pays dits du Nord et les pays dits du Sud, dans le cas de GPA, lorsqu'on parle de GPA éthique. Je ne suis pas allée en Inde. Il y a d'autres collègues à moi qui travaillent sur l'Inde dans le cadre de la GPA. C'est Sharmila Rudrapa qui a travaillé en Inde, Virginie Rosé, etc. Donc personne n'avait... en France, n'était parti déjà aux États-Unis, en Ukraine.
Donc, en Ukraine.
Je pense que les gens ont un avis tranché sur la gestation pour autrui. Soit ils sont pour, soit ils sont contre. Mais le seul avis qui comptait pour moi était celui de mon fils, le mien, et celui de la famille impliquée. Toute personne peut émettre un avis, mais ce que je fais avec ma famille, avec mon corps, ne regarde que moi. Ils peuvent avoir leur opinion, mais d'une manière ou d'une autre, je n'y prête pas attention. Il n'y a pas de meilleur sentiment au monde que celui d'aider à quelqu'un à créer sa propre famille. C'est comme offrir à quelqu'un un cadeau de Noël dont il a toujours rêvé, qu'il était impatient de recevoir. C'est le même sentiment, mais un million de fois plus fort. Le fait d'aider quelqu'un à réaliser cela, c'est quelque chose d'absolument merveilleux à voir. Quelqu'un qui parvient à réaliser ce pour quoi il s'est battu depuis si longtemps. Donc oui, ça me rend très fière.
Le mot fierté, qu'on vient d'entendre dans la voix d'Alice Ramon, qui traduisait l'une des femmes porteuses qui témoignent dans votre film, Delphine Lance, est quasiment un mot qui est répété par tout toutes les femmes la fierté d'avoir porté un enfant pour autrui. Ce qui est aussi important dans la parole que porte cette femme, c'est la liberté de faire ce qu'elle veut avec son corps, avec sa famille, d'en disposer, de prendre des décisions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est revenu dans tous les entretiens que vous avez menés.
Alors, dans tous les entretiens, non. Bien sûr que non, puisqu'il y a quand même une variété de discours, que ça soit en Ukraine comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que aux États-Unis, c'est très bien perçu. Donc, les femmes sont fières. La plupart que j'ai rencontrées, hein, d'autres l'ont caché. Hein. Il y a même des t-shirts qu'on peut retrouver où il y a marqué "fière d'être femme porteuse" et d'autres t-shirts qui diront "ce n'est pas mon enfant, je suis I'm surrogate, je suis femme porteuse." En Ukraine, c'est plus compliqué. Les femmes doivent plus ou moins se cacher quand même, parce que c'est pas encore vraiment reconnu. Il faut savoir que si c'est légal, ça ne veut pas dire que c'est accepté dans la société. Donc ça dépend vraiment de l'environnement culturel et de la classe sociale à laquelle va appartenir la femme porteuse, etc. Oui.
Quand on entend cette femme dire c'est plus que faire un cadeau de Noël, ça va encore au-delà que offrir un cadeau à quelqu'un qui l'attend depuis très longtemps. En effet, il y a un trouble de voir un enfant rapporté ou comparé avec un cadeau de Noël, aussi beau soit le cadeau. C'est une comparaison que vous avez entendue comment, vous, en tant que chercheuse ?
Alors, justement, c'est pour ça que je l'ai mis dans le documentaire. Parce qu'on parle souvent de marchandisation et d'objectivation un peu de l'enfant. Alors, là, c'était pour montrer qu'effectivement, il y a différentes façons de percevoir l'enfant qu'on va porter. Alors, elle, c'était plutôt dans le geste. C'était plus que dans l'enfant dont elle parlait. Donc, c'était le geste pour elle était un peu. Elle se sentait un peu comme Maman Noël qui offrait un cadeau, mais le cadeau de la vie. Alors, on peut faire là aussi parfois une analogie avec tout ce qui est don de soi, qui peut être lié à la religion, etc. Et donc, cette femme, plutôt. Bon, après, moi, j'ai vécu avec cette femme. C'est pas l'enfant qu'elle considérait comme un cadeau au sens matériel, mais plutôt le geste de porter pour autrui. Mais c'est vrai que ça porte justement à confusion et à discussion, l'utilisation du terme cadeau.
C'est quelque chose que vous pouvez discuter avec les femmes que vous avez rencontrées, justement, le fait d'utiliser de tels termes ?
Alors oui, mais justement, lorsque j'ai filmé donc cette femme, j'en ai discuté après avec elle, et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était plus effectivement le terme que j'employais. Elle me disait que c'était plus pour le fait que j'ai donné, j'ai offert quelque chose à quelqu'un. Comme lorsqu'elle parle d'incubateur, etc., ça va au-delà. Elle se considère pas comme des simples incubateurs.
Je suis chrétienne et je me suis assurée que ce n'était pas une chose que je ne devais pas faire pour quelqu'un d'autre. Et nous sommes donc allés à l'église pour parler à notre pasteur du fait d'être une mère porteuse. Et notre pasteur nous a appris qu'en fait Marie était elle-même une mère porteuse parce qu'elle a porté Jésus. Et Jésus était l'enfant de Dieu. Cela m'a rassurée et après lui avoir parlé, j'étais convaincue que tout irait bien et qu'il n'y avait rien de mal à ce que je me lance dans cette démarche d'un point de vue biblique. Mais vous savez, à un moment donné, l'Église vous apprend à donner aux orphelins, à prendre soin des veuves, à donner à ceux qui ont faim. Et je pense que d'un point de vue religieux, cela vous apprend à offrir aux autres, à donner de soi. Il y a un verset qui mentionne le fait de mettre sa vie au service de celle de ses amis, et dans un sens, je me sentais que c'est ce que je faisais car je prenais un risque en étant enceinte et en portant le bébé de quelqu'un d'autre. Il peut toujours y avoir des complications, il y avait l'éventualité de perdre la vie au moment de l'accouchement.
Delphine Dans, c'est un deuxième extrait de votre film « Paroles de femmes porteuses », ici traduit par Inès Duperron. Un certain rapport au religieux, une femme qui va consulter l'Église, voir si cette gestation pour autrui n'est pas contraire à ses principes. Là aussi, quand on entend cette femme, en même temps on l'entend pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, et en même temps il y a un sentiment assez étrange, peut-être de l'élasticité biblique dans un premier temps, de faire référence à Marie comme mère porteuse. Vous, en tant que chercheuse, vous entendez comment ce témoignage que vous montez dans votre film?
Alors, moi je l'ai retrouvé, dans plusieurs discours.
D'ailleurs, dans votre film, c'est assez prégnant ce rapport religieux quand
même. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai retrouvé en Ukraine comme aux États-Unis. Alors, j'ai discuté justement après avec le pasteur de cette femme. Et je lui ai dit, est-ce que c'est vous qui lui avez parlé de cette analogie à Marie? Et il m'a dit effectivement, c'était pour lui montrer qu'effectivement on est dans le don de soi et qu'elles font quelque chose qui est bien perçu par cette paroisse par exemple. Et voilà, c'est vécu comme un don de soi et un peu une façon de valoriser son geste et aussi de l'argumenter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, même dans l'église baptiste dans laquelle elle était, qui étaient plus ou moins contre la GPA. Et là, en se mettant à la place de Marie, ça lui permettait d'avoir d'argumenter son choix de devenir femme porteuse et de le valoriser, en fait. C'était une valorisation de ce don, en fait, du don de soi.
Oui. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on l'entend à l'aune de la manière dont les débats sont menés ici en France, et par exemple, peut-être une argumentation contre la GPA qui va aller du côté du conservatisme, éventuellement du côté du religieux, de la religion catholique, etc. On a l'impression que là, l'argumentation qu'on entend dans la voix de cette femme et dans d'autres femmes de votre film, inverse complètement les valeurs, le rapatrie dans un rapport très conservateur, très pro-famille, très perpétuation du geste de Dieu. On est assez dérouté en fait quand on regarde ce film-là.
Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à entendre ça venant d'une femme qui est croyante et pratiquante, etc. J'étais la première surprise je suis partie, particulièrement aux États-Unis où j'ai entendu ça de façon assez régulière. Et alors en fait, c'est des personnes qui sont pro-choice, hein, il faut savoir, donc pro-vie, du moins Gayle, là, qui apparaît dans le documentaire.
Donc par ailleurs, elles vont lutter contre l'IVG?
Complètement. Alors moi, lorsque j'ai interrogé justement le pasteur, je lui ai dit, bon alors vous êtes pro-life, il m'a dit, c'est pour ça que je suis pour la GPA. On crée la vie grâce à ça, on ne la détruit pas. Alors il faut savoir qu'ils sont pour la GPA, mais dans un certain cadre, c'est-à-dire que réduction, lorsqu'il y a trop d'embryons, par exemple lorsqu'on implante un embryon et que cet embryon se divise en deux par exemple, ou lorsqu'on en implante trois et qu'il reste implanté, les personnes qui utiliseront un peu cette rhétorique n'accepteront pas de réduire les embryons. C'est-à-dire de passer de trois à deux, parce que là ce serait un meurtre à leur sens. Donc ils sont contre la réduction embryonnaire, contre la destruction des embryons surnuméraires, parce que il peut arriver que on ait 15 embryons surnuméraires. Alors la solution qui est proposée au couple, c'est soit de détruire les embryons, soit de les donner à la science, soit de les donner à l'adoption. Les personnes qui sont dans ce cadre-là, que j'ai rencontrées, hein, je ne fais pas une généralité, vont donner ces enfants à l'adoption. On parlera d'accueil d'embryons, etc. Et donc voilà, c'est des personnes qui vont aussi être généralement contre l'IVG.
Alors quel est le statut du corps de la femme en fait dans ces discours-là?
Alors ça va vraiment dépendre. Il y a des femmes qui vont, alors si on parle des métaphores qui sont utilisées, qui sont ressorties assez régulièrement, ça sera « mon corps est un incubateur », certaines vont le dire.
Donc j'en dispose comme je veux, c'est mon entreprise.
Oui, alors c'est ça qui était très intéressant, parce qu'en France, y a les personnes qui sont contre la GPA vont dire « on prend les femmes comme des simples incubateurs ». Bon, il faut savoir que le fait qu'elles utilisent ce terme ne veut pas dire qu'elles sont complètement distanciées du fœtus qu'elles portent. Hein. C'est une façon un peu de contrôler un peu leur self. Alors là, je vous renvoie aux travaux d'Elie Temann, qui a travaillé là-dessus, qui parle du corps puzzle, c'est extraordinaire. Et donc, certaines femmes vont dire qu'elles sont des incubateurs, d'autres des fours, ça existe. Hein. Mais dans le sens positif, où elles diront, bah, moi, je prends les ingrédients des parents. Alors, il y avait cette comparaison, je prends l'ingrédient des parents, je le mets dans mon ventre, et moi, je cuis le... Bon.
Mais d'ailleurs, enfin, ce qui est assez troublant aussi, c'est que l'une des femmes que vous interviewez fait le parallèle entre mon mari est patron, il a une entreprise, il dispose d'une liberté d'action et d'entrepreneuriat. Finalement, moi, j'ai un corps, entre guillemets, je n'ai que ce talent, je le mets entre guillemets parce que c'est une citation de cette femme, n'ai que ce talent, donc pourquoi pas monnayer cet outil dont je dispose. C'est-à-dire que finalement, c'est mis sur le même plan que l'entrepreneuriat de leur mari.
Oui, il y a certaines femmes qui vont considérer que c'est un moyen aussi de... Alors là, lorsqu'elle disait ça, c'était Nicole, elle disait bien aussi que ça lui permettait aussi de se valoriser parce que lui, il est son propre chef, il prend ses propres décisions et c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire, moi aussi, je peux disposer de mon corps, voilà. C'est très important, etc. Et il y a même des femmes qui vont faire des GPA pour pouvoir ouvrir leur entreprise. Hein. Donc il y a un lien qui peut se faire avec l'entreprise. Et là, c'est effectivement, il a fait son choix d'ouvrir cette entreprise. Et moi, j'ai envie de pouvoir choisir ce dont j'ai envie et ce que je veux faire, en fait. À savoir que Nicole a toujours voulu être femme porteuse depuis qu'elle avait, elle avait 15 ans, en fait.
Ouais. Et comment est-ce qu'elle explique ça, a posteriori ?
C'est parce qu'elle a vu, alors il y en a beaucoup, elles ont vu des documentaires, en fait, sur des femmes qui ne pouvaient pas porter, généralement. Bon, elle a porté pour un couple gay. Et elle a eu, elle a eu une espèce de révélation. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont connu l'infertilité. On le voit dans le documentaire. Meghan avait connu des problèmes d'infertilité, c'est-à-dire qu'elle a dû faire appel à un don d'ovocytes. Et donc, elle a décidé de faire femme porteuse pour ça.
C'est assez intéressant que vous utilisiez le mot de révélation parce que quand on les voit se relayer dans la parole à l'écran, on peut avoir très honnêtement, on peut avoir un sentiment d'illuminé un peu. C'est-à-dire qu'à l'écran, dans la manière dont elles prennent la parole, dans la manière dont elles parlent de tout ça, on peut vraiment avoir ce sentiment-là. Est-ce que vous avez eu conscience, dans le montage, que vous pouviez donner cette image de ces femmes-là ?
Oui, on me l'a déjà dit. Effectivement, je pense surtout à la personne qui parle de Marie. Mais c'est... alors déjà, il y a le style américain, nord-américain, pardon, qui est très exalté, hein. On le voit, bon, si vous avez l'occasion de voir le documentaire, bon, tout le monde là, vous verrez. Et elles en parlent avec tellement de passion, c'est-à-dire que l'entretien était comme ça, tous les entretiens étaient comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas pris des moments où elles étaient particulièrement exaltées. C'est qu'elles étaient comme ça lorsqu'elles en parlaient. Surtout une femme qui est dans le documentaire, Taylor, là, qui adore être enceinte et qui est très exaltée quand elle en parle.
On pourrait aller dans la posture des corps, sur les canapés, dans les voix, dans la manière dont elles parlent aussi avec leurs mains, leurs yeux, l'articulation. Ça pourrait être une publicité pour du shampoing.
Oui, alors, oui, je pense que vous parlez surtout de Meghan, complètement. Mais alors, c'est comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu... qui est un peu typique, hein. Bon, je fais des grosses généralités sur les États-Unis, mais c'est toujours très très exalté, etc.
Donc c'est représentatif pour vous, avoir filmé ces femmes qui parlaient comme ça de la gestation
non,
pour autrui.
Non, c'est pas particulièrement représentatif. C'est pour ça que je le dis bien. J'ai filmé des personnes qui ont accepté d'être filmées. C'est pas du tout représentatif de la majorité, etc. C'est des personnes qui étaient fières de ce qu'elles avaient fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont accepté d'être filmées. D'autres personnes n'auraient pas eu des comportements aussi fiers, etc. Mais c'est une forme de discours. Il faut le voir comme ça. C'est pas
que vous analysez en tant que telle, comme une forme de discours.
Voilà, c'est une forme de discours. Ensuite, bon, ça pour la thèse, je parle d'autre chose. Mais là, dans le documentaire, voilà, c'est une forme de discours qui est des formes d'expérience. diverses et variées. Et là, ce sont seulement des femmes qui, voilà, ont accepté à un moment donné de livrer leur histoire devant la caméra, ce qui n'est pas facile. Donc c'est quand même des personnes qui, à l'origine, sont quand même à l'aise à parler en public, etc. En Ukraine, lorsque je pense faire la même chose en Ukraine, on verra, ça sera différent si les femmes acceptent d'être filmées. Là, voilà, moi je savais pas vraiment en fait au début ce que j'allais faire de ces images. J'ai filmé mes entretiens en fait sur le terrain en me disant ça va m'aider et voilà, elles ont accepté que j'utilise ces images.
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde, carbone. Sur la plus belle planète, 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 la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète.
Vous écoutez France Culture,
Les Nouvelles Vagues,
par Marie Récheux.
On entend un extrait d'un disque qui s'appelle I Love You, un disque de la chanteuse Camille avec cette chanson Aujourd'hui où les questions de la naissance, une très très belle chanson sur ce plus beau jour de la plus belle planète. Les femmes que vous avez filmées, Delphine Lance, elles parlent du moment de l'accouchement, elles parlent aussi du moment de la grossesse et vous les interrogez sur le lien au fœtus qui est en train de grandir dans leur ventre et elles apportent des témoignages assez contrastés sur la manière dont elles se figurent le lien à ce fœtus, en quels termes ?
Alors, tout à fait, c'est ça qui est très intéressant. Certaines personnes, certaines femmes vont considérer l'enfant comme plus ou moins le leur, alors que d'autres vont dire « Eh bien, moi, je souhaitais que cet enfant que je porte, enfin ce fœtus que je porte, soit un peu comme mon enfant, etc. Mais je n'ai pas réussi à créer ce lien. Mais par contre, j'ai créé un lien qui est plutôt celui d'une tante, celui de quelqu'un de la famille proche, mais qui n'est pas celui d'une mère.
Avant la naissance, donc portant cet enfant dans leur ventre, elles décrivent leur lien avec ce fœtus comme le lien d'une tante à sa nièce ou son neveu.
Alors ça peut être ça, ça peut être comme une autre qui va dire moi je le porte comme si c'était mon enfant.
Et il y en a d'autres qui disent j'ai fait en sorte de n'avoir aucun lien avec le fœtus qui grandit dans mon ventre.
Tout à fait, parce que elles le disent très bien, lorsqu'elles étaient enceintes elles-mêmes n'avaient pas vraiment de lien de connexion avec le fœtus qu'elles portaient, avec le fœtus qui est devenu leur enfant. Certaines personnes ne croient pas du tout en ce qui est l'instinct maternel, etc. Et donc, il y a différentes façons de percevoir le lien avec l'embryon qui sera ensuite le fœtus. Donc, elles peuvent être parfois se considérer comme des babysitters, parfois dire, bon, bah, effectivement, moi, je le portais, mais je m'en occupais bien, mais je savais depuis le départ qu'il n'était pas mon enfant. Et là, ce qui est très important à souligner, c'est que toutes ces femmes étaient des femmes qui n'avaient pas donné leurs ovocytes. Et ça, c'était très important pour elles. C'est-à-dire qu'elles portaient un enfant, enfin un fœtus, pardon, qui n'était pas relié génétiquement à elles. Mais ce qui n'empêchait pas à l'amour de se développer. Hein. Une certaine autre forme d'amour que l'amour maternel, si on peut dire qu'il existe un amour maternel.
Vous écrivez combien ce film il part du constat de la parole manquante des femmes qui ont porté pour autrui, notamment pour vos recherches. Lorsque vous voyez devant vos yeux, alors bien sûr il y a des constantes, on l'a dit, ce certain rapport au religieux, mais là c'est aussi sur un terrain très particulier qui est les États-Unis, mais quand on entend la myrielle de témoignages possible sur le lien de la femme à son propre fœtus ou au fœtus qu'elle porte, qu'est-ce que ça vous apporte à vous d'avoir finalement une pluralité qui empêche une parole globale ? qui empêche des conclusions globales et globalisantes.
Alors, c'est très intéressant lorsqu'on travaille sur l'embryon, la perception de l'embryon, du potentiel et de la potentialité de ce qu'est l'embryon. Alors, entre un être potentiel et, quelque part, parfois... Un simple détritus ou des choses comme ça. Donc ça nous permet de voir les multitudes, la possibilité de configuration et de personnification et qu'on va avoir sur l'embryon. Comment on va se le représenter en fait? Comment on va représenter l'embryon? Savoir que cet embryon est considéré comme un simple, des fois comme un simple astronaute, par exemple, ou comme un enfant, ça nous permet de voir qu'effectivement, ça peut aller plus loin sur les questions sur l'avortement, etc. Ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, il y a une pluralité de configurations, déjà parentales, pluralité de ce qu'on appelle une mère, et ça nous amène aussi à réfléchir à comment définir ce qu'est une mère, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, les nouvelles technologies de reproduction nous permettent de réfléchir à ça. Parce que là, on a on parle de maternité divisée en disant bon, il y a une donneuse d'ovocytes, une gestatrice, et lorsque c'est un couple hétérosexuel, une mère d'intention.
Mais sauf que face à cette pluralité-là, qui existe d'ailleurs pour tous les cas de figure et tous les cas de maternité, on va toujours quand même rappeler que l'expérience d'une femme, quelle que soit la manière dont le fœtus a été formé ou créé, est l'expérience d'une femme et qu'on ne peut pas se prononcer sur une généralité des expériences des femmes qui portent un enfant. Elles sont toujours plurielles. Sauf qu'à un moment donné, la loi, elle doit faire une formulation qui vaut pour chacun. Alors justement, comment est-ce qu'on passe d'une expérience plurielle qu'il se vit et se raconte de manière plurielle et hétérogène à la production d'un discours qui est normatif, qui est celui de la loi? C'est quand même cette tension-là qui est en jeu, en fait.
Ah, mais complètement. Alors, le problème à l'heure actuelle, je pense en France, la loi française, c'est qu'elle ne prend pas en considération justement cette pluralité des discours. C'est bien là le problème, c'est que en fait, la loi française, là, a pris en considération que les discours un peu dramatiques, on peut très bien le voir dans les discours des personnes qui sont contre la GPA. Ils vont prendre des discours de femmes, par exemple indiennes, qui ont vécu dans des dortoirs, etc. Je dis pas que c'est quelque chose de mal, peu importe, je me prononcerai pas dessus, mais je pense que ça permettrait aux législateurs de réfléchir un peu, de prendre en considération la parole, parce qu'on parle systématiquement à leur place, d'où l'intérêt de les filmer en fait, et ça nous permettrait un peu de réfléchir tous ensemble sur ce qui pourrait être une GPA dite éthique, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, le problème c'est qu'on donne la parole, déjà on donne très peu la parole aux femmes, qui sont quand même les principales concernées. Et lorsqu'on leur donne la parole, c'est souvent dans des cas extrêmes où on va médiatiser quelque chose en disant que voilà, la femme a été abandonnée par les parents, etc. La pluralité des discours permettrait d'être plus pragmatique et de se rendre compte de ce qui se passe vraiment en fait sur le terrain et de réfléchir ensemble à une légalisation ou pas.
Oui, parce que vous dites prendre en compte ce qui se passe vraiment sur le terrain et en même temps vous décrivez par ailleurs que ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est pluriel, c'est hétérogène. Alors comment, à partir d'une telle hétérogénéité, produire une loi qui, elle, produit normalement une normativité?
Alors, c'est assez compliqué, mais alors ce qui ressort moi de mon terrain, c'est que il y a beaucoup de femmes qui alors il faut pas penser que c'est que des femmes qui vont être soumises à un patriarcat ou etc. Il y a une pluralité des discours sur la façon de percevoir son corps, de percevoir l'embryon, mais ces femmes ont quand même décidé en conscience, pour la plupart, de porter pour autrui.
Alors, toutes les femmes que vous interviewez disent qu'elles s'en sont référées à leur mari. Et qu'elles ont consulté leur mari et qu'elles ont demandé, entre guillemets, l'autorisation de leur mari.
Alors, c'est pas vraiment qu'elles ont demandé.
Pas l'autorisation, mais en tout cas, elles ont demandé au moins leur avis.
Parce que ça implique la famille en entière. Donc, ça, c'est normal. Et parce que c'est demandé. Alors en fait, par les conseils d'éthique et par les agences, que le mari soit ce qu'ils appellent supportif, qui puisse soutenir la femme pendant la grossesse. C'est-à-dire que si l'époux, le compagnon ou la compagne, si c'est un couple lesbien, n'est pas d'accord pour que sa femme porte un enfant pour autrui, ça risque de créer des tensions. Et dans ce cadre-là, la gestation pour autrui ne va pas vraiment bien se dérouler, etc. Donc c'est plus pour que la relation se passe bien tout au long de la grossesse. C'est pas, elles sont pas obligées de, si elles ne sont pas mariées, par exemple, le compagnon n'est pas obligé de signer un papier ou quoi que ce soit. C'est juste pour être sûr que ça se fasse dans un environnement sain, où il n'y aura pas de stress, etc.
Au fond, on part quand même toujours de l'idée que on est, une femme est faite pour aimer les enfants qu'elle porte. Je n'en peux plus de ce préjugé naturaliste qui est démenti chaque jour. Il faut accepter la diversité parmi les femmes. Nous ne sommes pas toutes sur le même moule. Nous n'avons pas toutes le même désir. Nous sommes différentes parce que nous sommes humaines, justement. Vous me dites marchandisation du corps. J'en ai assez qu'on me colle marchandisation du corps aussitôt que quelque chose ne plaît pas. Je pense à la prostitution, qui est un autre sujet qui m'occupe, mais je pense aussi à cette idée de la GPA.
On entend la voix d'Elisabeth Badinter, 14 décembre 2012, au cours des différentes auditions qui ont eu lieu, notamment autour de cette loi et des discussions autour de la loi. Elisabeth Badinter parle de préjugés naturalistes, d'aller contre des schémas naturalistes, d'aller contre l'idée qu'une femme est forcément faite pour aimer l'enfant qu'elle porte. Dans les femmes américaines que vous avez rencontrées, elles avaient l'impression d'aller contre ces préjugés, elles avaient l'impression de créer des nouvelles façons d'utiliser son corps, des nouvelles façons de donner naissance à des êtres, des nouvelles façons de créer des liens avec des familles à venir.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je partage tout à fait les propos d'Elisabeth Badinter sur ce qui est de l'instinct maternel, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Hein. La preuve, on reprend toujours cet exemple, mais les femmes qui font des dénis de grossesse, qui vont congeler leurs enfants, etc. Bon, c'est très extrême hein, quand même.
Et puis c'est très complexe, je pense.
C'est très, voilà, ça mériterait voilà, de s'y pencher voilà, plus longuement de voilà. Toute façon. Bon, dans tous les cas, l'instinct maternel. Bon, c'est plus ou moins quand même une construction, mais bon, peu importe ça.
Donc ces femmes, elles vous disent en entretien, bon bah moi, le fait d'utiliser mon ventre et d'abriter un fœtus pendant 9 mois, c'est aussi lutter contre cette représentation de la femme et séparer la mère de la femme, par exemple.
Non, alors ça dépend hein, si elles sont féministes ou pas. D'autres vont dire non, alors pas du tout, parce que y a quand même beaucoup de femmes qui considèrent, qui sont assez essentialistes en fait, hein, qui vont dire une femme elle est faite pour porter et pour aimer.
Il y a une femme qui dit ça d'ailleurs, hein, ouais. J'adore être enceinte, c'est ce que je fais de mieux, je suis faite pour ça, on est fait pour ça, faisons-le
voilà,
quoi,
absolument.
Faisons-le le plus possible.
Alors ça c'est quelque chose qui est là. Mais par contre, ça veut dire aimer un enfant, mais ça ne veut pas dire aimer son enfant en fait. Elle le voit comme ça. Il y aurait une femme en Ukraine qui m'a dit bon, nous, de toute façon, on est faites pour aimer les enfants. Donc, ce qui fait que les femmes vont bien s'occuper de l'enfant pendant la grossesse, mais ça va être un amour. Hein. Il y a pas, c'est pas parce que c'est pas un amour maternel qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Ça va être, elles vont le décliner d'autres façons. Donc
sans déconstruire ce que dénonçait Elisabeth Badinter, à savoir que une femme est faite pour aimer l'enfant qu'elle porte. Elles ne déconstruisent pas ça.
Pas systématiquement.
Elles le vivent aussi.
Voilà. Mais alors ça dépend. Ça dépend des femmes, hein, parce qu'il y a d'autres personnes. Voilà, celles qui parlent d'instinct maternel. Je pense à Gail notamment, et qui disait que elle n'était pas sûre, voilà, d'avoir aimé ses enfants. Et y a beaucoup de femmes, alors ça c'est un peu tabou hein, à l'heure actuelle, hein, mais beaucoup de femmes aiment, enfin comme les pères, hein, peu importe, mais aiment leur enfant au fur et à mesure. Quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on porte un enfant qu'on va l'aimer systématiquement de suite, et d'un amour maternel. Alors ça, il n'y a pas d'amour maternel en tant que tel, ça va se construire en fait. Mais elles n'ont pas un discours en disant, moi grâce à la GPA, j'ai une approche féministe qui dirait, voilà, j'ai pas de l'instinct maternel n'existe pas.
Tout, elle parle du contrat financier qui les lie avec les familles de ces futurs enfants. Mm-hmm. Elles en parlent avec beaucoup de liberté de manière assez déconcertante en disant bah voilà, enfin même ça me permet de faire mes travaux, c'est un petit bonus, mais je fais pas ça pour l'argent. Hein. Toutes les femmes que vous interviewez aux États-Unis disent qu'elles ne font pas ça pour l'argent, mais que en effet elles en perçoivent, voire que c'est important pour les familles avec qui elles passent le contrat, c'est important qu'elles soient payées. Comment est-ce que vous avez décliné cette question ou ce questionnement en Ukraine?
Alors, là, la première motivation en Ukraine, c'est l'argent. Pourquoi vous faites ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux formes possibles. Alors, par exemple, une femme va dire, moi, j'avais pas d'autre choix, hein, clairement. J'avais pas d'autre choix, c'était soit ça, soit je ne pouvais pas vivre, etc. Et il y a d'autres femmes en Ukraine qui vont dire, oui, je l'ai fait pour l'argent, très bien. Mais parce que, au lieu de travailler dans l'usine de cuir où j'allais inhaler de la glu pendant des années et avoir un cancer, pour gagner 200 euros, l'équivalent de 200 euros, j'ai préféré faire ça, parce que ça me permet, moi, en un an, elle gagne à peu près 10 000 dollars. Hein.
10 000 dollars en Ukraine ou aux États-Unis?
Oui, en Ukraine. Donc, ce qui est énorme. Hein, surtout après Maïdan, il y a eu une grosse baisse du hryvnia.
Et, aux États-Unis, c'est quelle fourchette de prix?
25 000 dollars. Donc, et justement, alors ça, ce qui est intéressant, c'est que lorsque je disais à ces femmes ukrainiennes, certaines femmes ukrainiennes, vous savez, aux États-Unis, elles gagnent 25 000 dollars. Elles me disaient, mais elles se font exploiter, ces femmes. Parce que, il faut savoir que le niveau de vie en Ukraine est de à peu près le salaire moyen de 200 euros. Il était de 300 euros.
Donc, elle trouvait
euros.
Que c'était pas assez cher, 25 000 dollars.
Elle disait, mais non, nous, au moins, parce que les femmes que j'ai rencontrées, c'est elles qui fixaient les prix, etc. Elle disait bon. Et y a d'autres femmes qui ont fait une GPA pour pouvoir payer des études, en fait. Il y a une femme, par exemple, elle est tombée enceinte à 16 ans, elle a eu un enfant, etc. Et elle voulait être médecin. Et grâce à la GPA, elle a pu entrer à l'école de médecine, parce que c'est très cher en Ukraine. Et elle m'a dit, bon, bah, très bien, j'aurais pu faire ça dans 10 ans, mais j'avais pas envie d'attendre. Et moi, ça me permet aussi, après, de prendre un petit peu de pouvoir. Une forme d'empowerment pour les femmes. Mais
ce sont des discours qu'on peut aussi entendre rapporter à la prostitution. Et c'est une comparaison que fait Elisabeth Badinter dans cette audition en 2012. Ça vous semble intéressant, cette comparaison?
Oui, je pense. Alors, c'est intéressant. Alors, ça, c'est glissant, hein, lorsqu'on compare la GPA à la prostitution. Mais les arguments sont plus ou moins les mêmes pour ce qui est de la disponibilité du corps, etc. Après, bon, beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on compare la prostitution, qui est ramenée au sexe et tout ça, à la GPA. Mais les arguments c'est des arguments que j'ai pu retrouver, en fait, dans les deux discours. Et c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. On le voit très bien dans les associations féministes qui sont abolitionnistes. Elles vont mettre GPA et prostitution dans le même camp. Sur les arguments, il y a des similitudes.
Les femmes ukrainiennes qui font référence aux 25 000 dollars des femmes américaines font-elles référence à la somme, j'imagine, moindre allouée en Inde ou dans d'autres pays pour porter des enfants pour autrui?
Alors oui, mais alors moi je leur disais toujours que j'allais travailler parce que je suis déjà partie en Ukraine, ensuite je suis partie aux États-Unis. Oui, mais alors comparé au niveau de vie, par exemple en Inde, c'est un peu rapporté au même niveau, parce qu'elles vont gagner, je ne sais pas trop, mais 3 000 dollars il me semble en Inde, ce qui leur permet de vivre 7-8 ans, etc. Et donc, alors là, je vous renvoie justement à l'article de Sharmila Rudrapa sur la confection des bébés qui parle d'empowerment pour les femmes qui font ça en Inde. Bon, ça se discute, hein, mais elle a passé plusieurs années dans des dortoirs indiens. Elle montre que les femmes, pour la plupart, ont conscience. Hein, qu'elles aliènent quelque part leur corps, mais qu'à terme, ça va leur apporter quelque chose de positif, une nouvelle position dans leur famille, par exemple, etc. Bon, en Ukraine, c'est un peu différent quand même. Les femmes ne sont pas dans les dortoirs, elles vivent avec leur famille, etc.
Mais... Et elles ont l'impression aussi d'aliéner leur corps? Elles disent qu'elles aliènent leur ventre, leur corps?
Non.
Alors, elles produisent quoi comme discours sur la propre conscience de leur corps pendant qu'elles portent?
Alors, beaucoup me parlent d'incubateurs. Alors en me disant, bon bah en fait moi c'est mon ventre et mon, ce qu'on dira mon self, mon moi quoi, il est autre part. Mais
il y a une disjonction entre leur ventre, leur corps. Oui. Et leur moi, quoi, leur
oui,
être.
Oui, tout à fait. Mais alors, c'est intéressant parce que ça n'empêche pas que pendant toute la grossesse, elles vont vraiment prendre soin de leur ventre, elles vont toucher l'enfant. Et lorsqu'on leur parle d'utérus artificiel, elles trouvent ça horrible. Parce que je leur disais, donc en gros, si pour vous, si l'utérus artificiel était possible, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque, en gros, vous me dites que vous êtes qu'un incubateur. Elle disait, bah non, quand même, c'est pas humain, parce qu'il faut quand même la présence d'une personne, etc.
La première manipulation sémantique, c'est-à-dire quand on parle de GPA. D'abord, on ne peut pas réduire ce que l'on appelle habituellement, d'ailleurs, dans l'espace humain, grossesse plutôt que gestation. On ne peut pas réduire l'expérience de la grossesse à la gestation ou à cette période de la vie entre la fécondation et avant l'accouchement. Je crois qu'il y a là une astuce de ceux qui défendent ce processus, que de masquer la réalité, c'est-à-dire l'accouchement et l'abandon de l'enfant qui découlera nécessairement de cet accouchement. Dans gestation pour autrui, il y a l'idée d'un don. Or, il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, que ce soit en Inde ou que ce soit aux États-Unis, il ne s'agit jamais d'un don. C'est un acte commercial qui est fait contre rémunération. Et d'autre part, et enfin, dans gestation pour autrui, il y a le mot d'autrui, comme si on voulait jeter un voile pudique sur un acte marchand, sur des commanditaires qui finalement commandent un enfant, comme on pourrait commander un produit marchand. Et ce mot autrui fait écho dans mon esprit immédiatement à un autre vocable où ce mot autrui a cette fois-ci toute sa fait sa place, qui est la mise en danger d'autrui. Autrement dit, pour moi, la gestation, ce que vous appelez la gestation pour autrui, n'est qu'un exemple typique d'une mise en danger d'autrui, et c'est la raison, et je le développerai par la suite, pour laquelle j'y suis farouchement hostile.
C'est la voix du gynécologue Frédéric Chiche dans l'émission Le Grain à Moudre, diffusée en 2014 sur France Culture, présentée par Hervé Gardette. Évidemment, l'argumentation contre la gestation pour autrui, elle est elle aussi plurielle, hein, donc c'est évidemment très difficile d'en rendre compte, mais ce en face de quoi il me semble nous met cet argument-là et bien d'autres, et y compris votre film, c'est, je trouve, la difficulté de formuler quelque chose de général sur ces questions-là. Est-ce que vous avez aussi la sensation, parcourant les États-Unis ou l'Ukraine pour votre terrain de recherche, d'être face à cette difficulté-là, au moment où on doit légiférer?
Tout à fait, oui. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on se réunisse entre différents chercheurs. Bon, le travail était amorcé hein, par Irène Théry lorsqu'elle a fait le rapport qu'on appelle le rapport Théry, de mettre ensemble des chercheurs qui réfléchissent ensemble sur la GPA et des personnes qui sont contre, pour ou qui n'ont pas d'avis. Et je pense qu'effectivement, c'est un travail de longue haleine et j'espère vraiment qu'on pourra à terme discuter ensemble sans que ça soit toujours des positions pour ou contre, sans discussion en fait possible.
Les nœuds, il vous semble que c'est sur le statut juridique de l'enfant ou le statut juridique du corps de la femme? Vous avez l'impression que ça bloque où, quels que soient les camps?
Je dirais la femme et l'enfant, on l'a très bien entendu hein, avec le professeur Chiche, hein, marchandisation du corps de la femme et surtout de l'enfant. Généralement, les personnes vont penser qu'on vend un enfant, alors que ce n'est pas du tout l'enfant qui est vendu. Hein. On paye toutes les démarches, etc., le temps perdu, mais ce n'est pas l'enfant qu'on paye. Hein. La preuve, c'est qu'on ne donne pas l'argent à la fin de la grossesse, et bam, l'enfant contre de l'argent. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi sur le corps de la femme, comme on retrouve dans les débats abolitionnistes sur la prostitution.
Мені вже досить ваших злих і ненормальних. реальних світ. Я хочу бути кораблем у своєму морі снів.
Delphine, non, c'est vous qui êtes venue avec ce titre ukrainien dans vos bagages. De quoi s'agit-il ?
Donc c'est Duck Daughter qui parle de, c'est de Moye More, sur, c'est une chanson sur la mer, etc. Et la première fois que je l'ai entendue, en fait, je pensais qu'elle parlait de Maïdan, et, alors que c'est une chanson qui a eu lieu avant Maïdan, hein, puisque c'est ma mère, je pensais qu'elle parlait de la Crimée. Et en fait, c'est une chanson qui a été reprise pendant les événements d'il y a maintenant 2 ans.
Et ouais. Qui initialement parle de quoi ?
Alors, c'est une chanson poétique, en fait, sur la mer. C'est une forme de poème. Donc, il n'y a rien à voir avec ça, mais elles ont réutilisé cette chanson à la suite justement de la prise de la Crimée par la Russie, en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque moi je suis partie en Ukraine avant les événements, en fait, de Maïdan qui ont lieu il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
C'est Romain de Bec-de-Lièvre lui-même qui fait les annonces de l'émission. 14h52 sur France Culture, on a entamé voilà 1 an et demi une grande collection de récits. À partir de ces questions, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui fait office de tournant dans vos parcours ? Et cette semaine, c'est la réalisatrice Laetitia Merli, à qui l'on doit notamment La Revanche des Chamans, un film dont on parlait la semaine dernière, qui se prête à l'exercice. Elle évoque pour commencer la figure d'Ella Maillard qu'elle découvre au début des années 90. Elle a alors 20 ans et elle lui écrit.
Je tombe sur ces livres d'Ella Maillard dans une collection d'écrivains voyageurs. Et donc je tombe sur Oasis interdite, qui relate toute une aventure, toute une épopée qu'elle a réalisée en 1934, en partant de Pékin pour un voyage de 7 mois, 6000 kilomètres. Enfin voilà, je découvrais cette Suisse. Ella Maillard est suisse, elle a vécu toute sa jeunesse sur les bords du lac Léman, dans une famille bourgeoise. Et puis très jeune, elle est partie pour l'aventure et elle s'est mise à écrire d'une façon très simple. Non, c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce que je découvrais d'elle. Et voilà, ce qui me fascinait, c'était cette simplicité, juste de relater cette vie quotidienne, ses voyages, dans les détails, c'était très géographique, ethnographique, et puis personnel aussi. C'était le début des années 90, on va dire, voilà, fin des années 80, début des années 90, quand je découvre ces livres. Et je me disais, mais c'est incroyable, on fait plein de discours sur les femmes, etc. Et puis non, on voit bien, il y a des contre-exemples, il y a des femmes extraordinaires qui, déjà dans les années 30... faisait des trucs incroyables, donc c'est possible, et donc je veux faire comme ça. Voilà, que cette vie-là était possible, que on pouvait voyager, en vivre, bon, plus ou moins. Et ce qui m'épatait aussi, c'était ses réflexions personnelles sur le sens de la vie. Elle s'essayait un peu à des questions existentielles, et puis quand elle a découvert l'Inde, elle a, à partir des années 40, elle a suivi des enseignements chez des sages indiens. Et donc elle est entrée dans cette dimension-là aussi assez d'introspection, une vie intérieure, etc. Comme si pendant des années, elle avait parcouru le monde pour finalement arriver à la conclusion qu'il y a aussi cette aventure intérieure à réaliser en chacun de nous et qu'on a beau aller chercher des trésors à l'autre bout de la planète, il faut aussi se connaître soi et accepter l'idée qu'on a aussi la totalité du monde en soi. Et puis c'est vrai que moi, dans mes 20 ans, là, j'étais en plein questionnement et donc je lui ai écrit parce que j'étais vraiment dans cette obsession-là d'aller sur ses traces parce qu'elle était allée, dans les années 30, dans des pays où moi, je voulais aller maintenant, quoi, dans les années 90. Donc je m'étais mise en quête de son adresse, de son téléphone. Donc je l'ai appelée en Suisse, je suis tombée sur sa secrétaire qui m'a dit « bon bah vous pouvez lui écrire, voilà ». Donc je lui ai envoyé une lettre et elle m'a répondu. Et c'est elle qui m'a donné l'idée, parce que je ne savais même pas que ça existait finalement, je crois à l'époque, de faire de l'ethnologie. Elle me disait dans sa lettre « tous ces pays d'Asie centrale, de Chine, d'Asie centrale soviétique où je suis allée, si vous y retourniez aujourd'hui, vous seriez très déçus ». Parce que ça a sûrement beaucoup, beaucoup changé. Et tous les voyages que j'ai faits à cette époque-là ne seraient plus du tout possibles aujourd'hui. Et elle terminait sa lettre en disant « Si vous voulez parcourir des contrées sauvages et essayer d'en vivre, devenez ethnologue. »
On termine avec la voix des Sirens de Lola March, choisie par Somanina pour conclure cette émission. Merci beaucoup Delphine Lance d'avoir été avec nous. Le sujet est bien vaste et il resterait encore bien des choses
merci à,
vous. Discuter. Alors, un générique si vous voulez, à blanc, comme vous voulez. Voilà, on va mettre quand même la musique, c'est plus joli. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On peut les réécouter sur franceculture.fr. On peut aussi se poster des mots doux sur franceculture.fr ou via Twitter ou via Facebook. Et même des mots pas doux, on les accepte tout à fait. Merci à Romain de Bec-de-Lièvre, Inès Duperron et à Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi. Une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Edouard Rubinstein et au droit d'auteur Julie Guérou.